ensemble lundi 10 mai 2021. Il vient d'être à 17h au studio Kalangou. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette édition d'information au micro Nefis Adam Sirfo. Au sommaire, plusieurs habitants de Banbongou, région de Tillabéri, ont fui l'insécurité due aux récentes attaques des groupes armés non étatiques dans le département. Certains d'entre eux sont arrivés hier à Baleyara à suivre leur témoignage dans ce journal. La zakat al-fitr, comment elle doit être prélevée et à qui la donner? Réponse tout de suite avec un prédicateur. Dans le magazine de ce journal, nous verrons la nécessité d'une relecture des dispositions de la loi sur la cybercriminalité au Niger avec l'ancien président du Conseil supérieur de la communication, Abdrahman Ousmane. Nous débutons ce journal par cette brève. Le président du Conseil militaire de transition du Tchad, le général Mahamat Idriss Déby Itno, a effectué ce matin une visite de travail et d'amitié de 24 heures au Niger, rapporte un poste de l'agence nigérienne de presse. Reçu par le président nigérien Bazoum Mohamed, le président du CMT dit être venu présenter ses condoléances au contingent tchadien basé à Téra dans le cadre de la force conjointe du G5 Sahel suite au décès du maréchal du Tchad, chef suprême des armées, et leur a affirmé son soutien, précise la même source. Les récentes attaques des groupes armés non étatiques dans le département de Banbongou ont causé le déplacement de plusieurs ménages. Ainsi, plusieurs chefs de famille de Banbongou sont arrivés hier à Baleyara. Parmi ces déplacés, des femmes et des enfants qui sont accueillis dans des familles. Le témoignage de certains d'entre eux au micro de Hassan Moumouni.
C'est à cause de l'insécurité qu'on est venu ici. On est venu pour avoir un peu de tranquillité. On veut que les enfants soient scolarisés et qu'on nous assiste nous aussi. Mais regardez les conditions dans lesquelles nous sommes. Sans mur, sans natte, on est juste là. On n'a même pas de toilettes. Les gens que je connaisse peuvent atteindre 15 pères de famille.
Je vous jure que l'insécurité est de plus en plus grandissante. Tu ne peux ni dormir ni manger. C'est ce qui m'a fait déplacer. Il y a beaucoup de déplacés qui arrivent. Il va falloir être tous regroupés pour savoir le nombre de personnes. Les gens ont fui, soit seuls ou en groupe. Moi, j'étais avec mes petits frères. Ils ont continué à Tabala. Nous sollicitons de l'aide auprès des autorités. Je n'ai même pas un petit hangar de fortune.
C'est un problème qui inquiète les gens. Plus de 10 villages ont quitté pour venir se joindre à nous. Chaque jour, ils ne font que venir. C'est la cause de notre déplacement.
Les autorités ivoiriennes ont décidé en début de ce mois de rapatrier les mendiants nigériens installés sur leur sol. Une situation que beaucoup de Nigériens trouvent déplorable. Le problème de mendicité au Niger est devenu un fléau social selon le sociologue Alou Aye. Pour lui, l'État nigérien doit trouver des alternatives pour fixer ces mendiants dans leur région. Alou Aye est interrogé par Salamat Kadri.
On ne peut en aucun cas construire une nation avec une vague de gens comme ça qui s'adonnent à la simplicité, à la mendicité. Donc il faudrait réglementer l'activité si c'est vrai qu'on doit mendier lorsque on est dans une situation de paupérisation. Mais on ne peut jamais transformer la mendicité en un business. Et je pense que c'est le lieu de rappeler à l'État du Niger qu'il y a nécessité de réorganiser le système. Une des propositions, créer un mécanisme qui puisse permettre de capter tout ce que les Nigériens donnent. Parce que c'est vrai, c'est notre religion qui nous demande de venir en aide. Mais si à l'intérieur de notre système social, nous avons créé des dispositifs nous permettant de collecter cet argent-là. Les mendiants là ne seront pas dans la rue. Ils sont dans la rue, c'est parce que quelqu'un leur donne. Maintenant, si nous avons un dispositif social qui nous permet de capter cet argent-là, eh bien, on fait des transformations et agir au niveau de leur collectivité pour que nous puissions éradiquer véritablement ce phénomène. En ce moment-là, l'État peut sévir parce que tout celui qui quitte son village, sachant qu'on a créé les conditions pour qu'il puisse rester et travailler, eh bien, s'il vient en ville mendier, on peut prendre des dispositions les plus ardues vis-à-vis de lui.
Voler Ramadan, le mois de Ramadan touche à sa fin. Toute personne qui jeûne pendant ce mois doit à la fin de celui-ci prélever la zakat un jour ou 48 heures avant l'observation du croissant lunaire. Aussitôt prélevée, la zakat al-fitr doit être mise à la disposition des nécessiteux selon le prédicateur Oustaz Haladou Yahya. Le pratiquant a l'obligation de donner la zakat aux personnes vulnérables avant d'aller à la grande prière de Idi. Sinon, après, elle ne sera plus considérée comme zakat, mais elle devient tout simplement de l'aumône. Je vous propose de l'écouter au micro de Hawa Ousmane.
Zakat al-Fitr ouvre au monde de la rupture du jeûne et une aumône relevant de la sunna du prophète, rendue obligatoire par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et elle consiste à être prélevée pour chaque musulman à raison de 4 mois de nabiyou. C'est les produits les plus consommés dans la région. C'est une aumône qui a des objectifs très importants, à savoir la purification de l'âme du croyant pour des paroles licencieuses, obscènes, prononcées au cours de l'observation du jeûne du mois béni de Ramadan, mais aussi elle est un instrument de lutte contre la pauvreté, parce qu'à travers la zakat al-fitr, on vise à aider les nécessités. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit « Épargnez-leur la mendicité le jour de la fête ».
Autre aspect de ce journal, 5000 doses d'AstraZeneca et de Sinopharm ont été mises à la disposition du district sanitaire d'Arlita contre la COVID-19 pour une population de plus de 137 000 habitants. Le lancement a eu lieu vendredi dernier. Docteur Irobawa, médecin-chef du district sanitaire d'Arlita, explique au micro de Ousmane Oumarou.
On a reçu deux types de vaccins. Il y a ce qu'on appelle AstraZeneca et le deuxième, c'est le Sinopharm. Mais qui, malheureusement, comparé à la population d'Arlit, on n'a pas eu suffisamment de vaccins. C'est ce que le pays a réceptionné, qu'on a dispatché au niveau de toutes les régions. À Arlit, on a eu à peu près 5 000 doses, ça fait à peu près pour 2500 personnes. Chacun doit avoir 2 doses. Donc, vraiment, moi, j'appelle les uns et les autres à se faire vacciner. C'est vrai, l'État n'a pas fait de ça une obligation, mais les gens, ils ont intérêt pour eux-mêmes et pour cette population parce que c'est un problème de santé publique. Tu peux te contaminer les autres.
Lancement également mercredi dernier à Tessawa de la campagne de vaccination contre le coronavirus. Le médecin-chef du district sanitaire a indiqué que pour cette première phase, le personnel de santé, les forces de défense et les autorités sont concernés. Murtala Ibra a attiré aussi l'attention des uns et des autres sur l'importance du carnet vaccinal contre le COVID-19. Il est au micro de Seydou Senké.
Cette vaccination, comme déjà annoncé, il s'agit d'une première phase et elle concerne tous les agents de santé, les forces de défense et de sécurité et les différents responsables. Après, ce sera le tour du reste de la population. Pour le moment, nous avons reçu des vaccins suffisants pour couvrir la première phase. Aussi, pour que cette vaccination ait toute son efficacité, il faut être vacciné 2 fois. Donc, si une personne est vaccinée aujourd'hui, elle va recevoir la deuxième dose dans 1 mois. Toute personne vaccinée a droit à une carte pour justification. Il faut noter que cette vaccination ne va pas se limiter à la ville de Tessawa. Elle sera élargie aux autres centres de santé du département et prendra au moins 1 semaine.
Parlons culture dans ce journal. Le vernissage du 4e roman de l'écrivain nigérien Adamu Ide, intitulé Camarade, paru en début d'année 2021, a eu lieu samedi au Centre culturel franco-nigérien Jean Rouche de Niamey, un livre dans lequel l'auteur s'interroge et engage la réflexion sur le phénomène de la corruption au Niger et sur d'autres sujets d'intérêt général. Découvrons ce nouveau roman dans ce reportage de Michel Digi.
C'est un roman à travers lequel l'auteur pose une grande interrogation, celle de savoir pourquoi la corruption persiste au Niger et son devenir du fait de la pratique de ce phénomène social. L'écrivain Adamu Ide.
Le goût immodéré de l'argent fait en sorte que dans notre pays, il n'y a aucune considération des valeurs éthiques et morales. Et c'est particulièrement grave pour l'administration publique, où les maux se ressentent au détriment d'une pratique qui tend à capter l'argent public pour des intérêts personnels. C'est ça qui est en train de faire mal à beaucoup de populations de notre pays et je trouve cela tout à fait insupportable et c'est dangereux pour notre pays.
Une thématique ayant suscité un grand débat au vernissage de l'ouvrage. Quelques participants se prononcent.
L'homme politique ne lutte pas pour ça parce que lui-même c'est ce qu'il a fait pour venir sur les rails. Je me dis s'il y avait vraiment des punitions concrètes, les gens allaient prendre conscience et changer.
Comment est-ce qu'il faut faire pour que notre société soit une société idéale? On ne peut pas dire que c'est seulement un tel et un tel, c'est tout le monde. Les réflexions sont là, on va des lueurs d'espoir.
D'autres sujets abordés par l'écrivain dans ce nouveau roman, c'est la polygamie dans la société nigérienne et le phénomène d'exclusion des albinos, entre autres. Des thématiques pour tirer la sonnette d'alarme sur certaines pratiques qui nuisent au corps social et qui appellent au retour de certaines valeurs positives de la société nigérienne, notamment de dignité, de loyauté et de justice sociale.
un forum intercommunautaire de sensibilisation dans le cadre de la gestion des ressources partagées et la prévention des conflits a eu lieu en avril à Dokoro, région de Maradi. Il s'agissait d'élaborer des stratégies de lutte contre la désertification à travers la plantation d'arbres. Pour ce faire, la pépinière de la ville dispose de 70 000 plantes d'arbres prêtes à être utilisées. Maman Sani Ouattara, responsable de la pépinière, explique au micro de Adam Oumarou.
On a constaté un besoin des arbres ici à Dakoro. C'est à cause de la désertification qu'on a fait ce travail. Actuellement, on est dans une pépinière du département de Dakoro, appelée pépinière centrale, où on trouve plus de 7000 arbres de plusieurs variétés. On veut que toutes ces jeunes plantes puissent être transférées dans les endroits où on a creusé des demi-lunes, sur un lieu de pâturage ou dans un champ. Les planter là où ils sont rares. Ici, si tu constates qu'on a un problème d'arbres, si tu veux faire un hangar ou autre chose, c'est un problème pour en trouver. Nous, on veut continuer jusqu'à une abondance d'arbres. C'est ce qui nous a poussé ici à Dakoro à prendre cette initiative. En plus, c'est un département proche de la zone sahélienne, raison pour laquelle on a pensé à dire que les arbres à épines sont la solution.
À présent, le magazine de ce journal, l'ordonnance à 2010-35 portant régime de la liberté de la presse au Niger, est un texte spécial qui relève d'une loi spéciale consacrant la dépénalisation des délits commis par voie de presse, y compris ceux commis par voie électronique. Cependant, l'application de ce texte pose problème depuis l'adoption de la loi sur la cybercriminalité en 2019. Cette nouvelle loi a tendance à remettre en cause la loi spéciale, alors même qu'il y a un principe juridique qui dit que quand il y a une loi spéciale et une loi générale, c'est la loi spéciale qui s'applique, indique Abdrahmane Ousmane, ancien président du Conseil supérieur de la communication. Il est joint au téléphone par Balkissa Hamidou.
Monsieur Abdrahmane Ousmane, si la loi sur la cybercriminalité remet en cause la loi sur la dépénalisation des délits commis par voie de presse, est-ce qu'on peut parler de relecture ou révision?
Avant d'arriver à la même relecture ou à la révision de cette loi, c'est au niveau de l'application des textes qu'il faut faire la part de choses. Et l'ordonnance 2010-35 portant régime de la liberté de la presse est un texte spécial. Donc, il relève d'un droit spécial. Or, il y a un principe juridique qui dit que quand il y a un droit spécial et un droit général, c'est le droit spécial qui s'applique. Donc, il faut appliquer aux journalistes exclusivement la loi portant régime de la liberté de la presse qui consacre la dépénalisation. De ce fait, aucun journaliste ne peut être arrêté ou avoir publié un article, même sur les réseaux sociaux. Il ne faut pas donc poursuivre les journalistes sous le régime soit du code pénal ou de la loi portant répression de la cybercriminalité, dès lors que le contenu du jeu a été diffusé dans le cadre de l'exercice de la profession, eh bien c'est la loi sur la dépénalisation qui doit s'appliquer aux journalistes.
Comment agir pour que ces deux lois ne soient pas vues de manière contradictoire?
Il faut que les organisations socio-professionnelles des médias fassent encore du plaidoyer auprès des autorités judiciaires, auprès des pouvoirs publics, pour que, au moment de l'application des peines, que le juge, en ce qui concerne les journalistes, ait le réflexe de recourir au droit spécial, donc au droit sur la presse, et non au code pénal. Tout le problème réside justement dans cette condition. Quand on met de côté le droit spécial et on applique le code pénal, eh bien, en ce moment, le journaliste est considéré comme n'importe quel citoyen et on lui applique la loi. Alors que ici, il y a un droit spécial qui devait régir l'exercice du métier de journaliste. La solution réside dans le distinguo entre justement le droit spécial et le droit général. Et aujourd'hui, la question de la cybercriminalité est aussi une réalité. Il ne faut pas perdre de vue cela. Donc, il y a aussi de la responsabilité des pouvoirs publics de prendre des dispositions pour pouvoir sanctionner ceux qui vont commettre des délits par voie électronique. On peut, par exemple, dans le cadre des dispositions finales ou de cette loi, dire que cette loi ne s'applique pas aux journalistes dans l'exercice de leur métier, je précise bien. Donc, ce qui fait que même en cas de commission d'une diffamation ou d'une injure ou d'une propagation de fausses nouvelles par un journaliste dans l'exercice de ce métier, la loi ayant prévu qu'elle ne s'applique pas à ce corps, eh bien, donc, le juge ne pouvait pas l'appliquer.
C'est la fin de ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous retrouve à partir de 18h15 pour le forum de Studio Kalangu qui a pour thème « Violence basée sur le genre à l'encontre des femmes en situation de handicap dans les services ». Studio
Kalangu à Difa,
Alternative FM 99.4 MHz à Zender,
Geskia FM 89.5 MHz à Maradi,
Saraunia FM 102.1 MHz à Kyoto,
Bonferé Fuma 99 MHz.
Studio Kalangu.